Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de parler ce soir sur le sujet « Sommes-nous à la veille d'un grand bouleversement ?» Aujourd'hui, la première partie, demain, la deuxième. Trouve-t-on dans la Bible des arguments irréfutables pour croire que nous vivons aujourd'hui dans les derniers temps bibliques et que Jésus-Christ revient bientôt pour apporter justement ce grand bouleversement. Vous voyez ici sur l'image le mont des Oliviers. Vous le voyez depuis le mont du Temple à Jérusalem de l'Est. Sur cette colline, donc sur le mont des Oliviers, reviendra Jésus-Christ selon le livre Zacharie 14, verset 3. Dans les derniers temps. Eh bien, sommes-nous dans cette époque? Avant de vouloir répondre à cette question fondamentale et actuelle, il faut se demander que veut dire le terme « les temps de la fin » ou « les derniers temps ». Eh bien, il y a beaucoup d'expressions synonymes dans la Bible qui parlent de cette époque de bouleversement fondamental. Par exemple, Ézéchiel 38, verset 8, à la fin des années. Daniel 8, 23, au dernier temps. Osée 3, verset 5, à la fin des jours. Joël 4, verset 1er, en ces jours-là et en ce temps-là. Un terme très typique et technique pour les derniers temps. Acte 2, 17, « Au dernier jour », de Timothée 3, verset 1er, « Dans les derniers jours », ou 1 Jean 2, verset 18, « La dernière heure ». Et lorsque vous trouvez dans la Bible ces expressions-là, vous pouvez savoir que le contexte parle des derniers temps, les temps de la fin. Et lorsque vous lisez tous ces passages, vous voyez, cette époque, c'est toujours le temps du Messie. Le temps où le Messie va venir. Et maintenant, j'ai de nouveau utilisé un terme technique de la prophétie biblique. Qu'est-ce que c'est que le Messie? Le Messie, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui a été écrite depuis 1600 avant Jésus-Christ, jusqu'à 400 avant Jésus-Christ, eh bien, l'Ancien Testament parle du Messie comme le sauveur promis pour Israël et le monde entier. Mais les prophètes avaient toujours parlé de deux façons différentes. Vous trouvez dans l'Ancien Testament beaucoup de passages qui parlent d'un Messie souffrant, qui viendrait un jour pour mourir comme un sacrifice pour nos péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. Mais beaucoup d'autres passages parlent d'un Messie triomphant qui va venir un jour pour apporter un grand bouleversement, pour apporter dans ce monde la justice de Dieu. Eh bien, comment réconcilier ces deux descriptions du Messie qui sont tellement opposés? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il s'agit de deux venues différentes du même Messie. Et voilà, la première venue est déjà accomplie. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est venu comme le Messie souffrant. Il est mort à la croix pour nos péchés. Le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Et voilà, après une longue période, il a soi-même aussi annoncé, il va revenir une deuxième fois comme le Messie triomphant. Mais comment on peut distinguer déjà dans l'Ancien Testament ces deux venues différentes? Eh bien, en rapport avec la première venue du Messie souffrant, les prophètes avaient annoncé que le Messie sera rejeté par la masse de son propre peuple. Et dans la suite, le peuple juif, le peuple de Dieu, sera dispersé dans le monde entier. Mais en rapport avec la deuxième venue du Messie triomphant, les prophètes avaient déjà dit, avant l'ère chrétienne, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, dans la période avant sa venue, le peuple juif sera rassemblé de toutes les nations du monde au pays des ancêtres. Voyez cet antiparallélisme absolument remarquable. Mais, voyez, cette période du Messie triomphant est absolument actuelle pour nous parce que nous sommes vraiment dans la période où nous voyons comme les Juifs du monde entier sont en train de revenir, de retourner au pays des ancêtres. Et c'est ça que la Bible appelle les derniers temps. Les derniers temps avant un grand bouleversement qui viendra par la venue de, par la deuxième venue de Jésus-Christ. Et puisque le retour des Juifs est un des signes fondamentaux de la deuxième venue de Jésus-Christ, eh bien on peut dire les derniers temps ont particulièrement commencé depuis 1882. Pourquoi ? Parce qu'en cette année, la première immigration massive de Juifs au pays des ancêtres avait commencé. Après la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, les derniers temps dans la Bible, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez bien compris. Ce n'est pas la fin du monde, mais les derniers temps, c'est la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie, de Jésus-Christ. Vous voyez, les conséquences du rejet de Jésus-Christ étaient déjà annoncées dans l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse, en Lévitique 26, 31, vers 1560 avant Jésus-Christ, avait déjà annoncé cette destruction de Jérusalem et de l'État juif et du deuxième temple qui a eu lieu, selon l'histoire, en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, quelques années seulement après la crucifixion de Jésus, le Messie souffrant. Et voilà, là en Lévitique 26, 31, Dieu dit, « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai votre sanctuaire. » Et je continue, « Et je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. » Eh bien, mesdames et messieurs, le pays d'Israël, qui était un pays qui ruisselait de lait et de miel, est devenu, depuis l'an 70 après Jésus-Christ, par un processus de plusieurs siècles, une vraie désolation, un désert. Je continue à lire. Et vous, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous et votre pays sera mis en désolation et vos villes seront un désert. Donc la dispersion parmi toutes les nations est annoncée ici et c'est un fait historique que le peuple juif, à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, dans un processus de plusieurs centaines d'années, a été littéralement dispersé parmi tous les cinq continents du monde. Depuis l'Amérique du Nord jusqu'en Australie, depuis l'Amérique du Sud jusqu'en Chine et depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Suède. Et je vais continuer à lire en Lévitique 26, 33. « Et vous, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. » Et votre pays sera mis en désolation et vos villes seront un désert. Et voilà, chaque mot s'est accompli. C'est aussi un fait historique. Depuis l'an 70 après Jésus-Christ jusqu'à 1948, l'an de la fondation de l'État moderne d'Israël, environ 13 millions de Juifs ont perdu leur vie à cause de la haine contre les Juifs. à travers tous les siècles. Chaque mot s'est accompli à la lettre, et vous pouvez comprendre pourquoi le chazan, celui qui récite le texte biblique dans la synagogue, dans le monde entier, lorsqu'il lit ce chapitre, n'a pas le droit de le réciter à haute voix. Parce qu'on est, dans le judaïsme, convaincu que chaque mot s'est accompli terriblement à la lettre. Eh bien, on peut se demander, mais quel est vraiment le sens de cette longue période entre la première venue et la deuxième venue de Jésus-Christ? Eh bien, c'était aussi déjà annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Dans le prophète Ésaïe 49, verset 6, vers 700 avant Jésus-Christ, Dieu parle au Messie et il me dit, « C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Eh bien, dans cette période où le peuple juif serait dispersé dans le monde entier, la bonne nouvelle du Messie Sauveur devrait être annoncée dans le monde entier à tous les peuples non-juifs. Eh bien, c'est un fait que pendant les 2000 ans passés, l'évangile de Dieu a atteint tous les 5 continents du monde. Le message du Messie souffrant et des millions de non-juifs à travers les 2000 ans passés, ont reconnu en Jésus-Christ le Messie de Dieu envoyé pour Israël et pour le monde entier. Et l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Eh bien, dans la même période où ce message du Messie souffrant a été annoncé dans le monde entier, Israël était dans la dispersion, dans le monde entier. Et voilà, en Osée 3, verset 4, cette longue période sans état a été décrite de cette façon, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Au verset 5, ensuite les fils d'Israël retourneront, c'est-à-dire retourneront au pays des ancêtres. À la fin des jours. Vous voyez, dans les derniers temps. À l'époque, juste avant un grand bouleversement mondial. Alors, on va considérer maintenant les derniers temps. Avant le retour de Jésus-Christ, je suis en train d'écrire un livre avec le titre « Sommes-nous vraiment dans les derniers temps ?» Et là, je traite environ 160 prophéties de la Bible concernant les derniers jours, les temps de la fin, qui sont déjà accomplis depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, 2010. Donc, 160 prophéties précises accomplies, et tous accomplis dans la même époque. Et dans ces deux soirées, on va traiter ensemble 60 preuves irréfutables. Vous voyez, les derniers temps, c'est une période. Aujourd'hui, une période de 128 ans déjà. C'est la période où les Juifs, dans un processus, retournent au pays des Père. Et vous voyez, j'ai indiqué ici, en vert, les prophéties, donc jusqu'à présent les 160 prophéties concernant les derniers temps, qui sont accomplies. Et finalement, le Messie triomphant, Jésus-Christ, va revenir. N'est-ce pas? On peut dire, si on compare la fin, on peut dire, avec le début, on peut dire, il y avait aussi là une période depuis la venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans, ou 2010 ans. Vous voyez, c'était une période de 135 ans, jusqu'à la destruction totale de l'État juif par l'empereur Adrien en 135, par une guerre terrible où il y avait plus d'un million de morts parmi le peuple juif. Eh bien, ici, j'ai indiqué donc toutes ces prophéties qui étaient prononcées dans l'Ancien Testament concernant le Messie, le rejet par le peuple juif, la destruction de Jérusalem à l'an 70, etc. Donc, c'était clairement le début d'une période de 135 ans après la longue période de la dispersion des Juifs. Et maintenant, cette période de la fin. Alors, nous allons traiter en tout 60 prophéties accomplies. Et je commence par la première. J'ai déjà introduit cette prophétie, le retour des Juifs, 1882 à 2010. Je lis en Ézéchiel 36, 24, écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dieu dit clairement dans le contexte, vous pouvez relire à la maison dans votre Bible, Dieu parle au peuple juif, au peuple d'Israël. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous amènerai sur votre terre. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes des témoins oculaires du fait que, jusqu'à présent, 3 millions de Juifs sont retournés depuis 1882 au pays des ancêtres, venant des 5 continents, venant de plus de 100 pays différents. On n'a pas un parallèle dans l'histoire d'un tel événement. Mais ça, c'est déjà... Donc, un événement sans parallèle, c'est un argument que nous vivons dans une époque avant le grand bouleversement par la venue de Jésus-Christ. Deuxième argument, l'hébreu ranimé, 1881 à 1922. Eh bien, l'hébreu était parlé en Israël il y a 2000 ans, comme également l'araméen, les deux langues. Étaient des langues vivantes. Mais par la destruction de l'État juif en 135 après Jésus-Christ, dans la suite, l'hébreu est devenu une langue morte, qui n'était plus parlée, comme le latin n'est plus parlé, est une langue morte. Mais ça posait, ou ça aurait pu poser un problème en lisant Ésaïe 19. Ésaïe 19 est un chapitre dans votre Bible, la Bible hébraïque, qui parle de l'Égypte dans les derniers temps, à l'époque où le Messie triomphant va venir. Et là, il est dit au verset 18, « En ce temps, à l'époque où le Messie sera là, de nouveau, le Messie régnant, « En ce temps, on parlera, même dans 5 villes égyptiennes, la langue de Canaan. » Eh bien, la langue de Canaan dans l'Ancien Testament, c'est l'expression pour dire l'hébreu. Eh bien, si on parlera à l'époque du Messie l'hébreu, alors cette langue morte devrait être ranimée, n'est-ce pas? Mais jamais dans l'histoire, on n'a vécu qu'une langue morte pendant au moins 1000 ans. On n'a jamais vu qu'une telle langue a été ranimée. Eh bien, Eliezer ben Yehuda, 1858 à 1922, était un juif de l'Europe de l'Est qui est retourné au pays des ancêtres et il s'est dit, les juifs ici devraient parler de nouveau la langue des anciens prophètes et non pas le yiddish ou le français ou le russe ou l'arabe. Et c'est pour ça qu'il a investi toute sa vie qui suivait pour faire ranimer l'hébreu, ce qui s'est accompli. Dans les années 1920, on a pu de nouveau entendre des enfants jouant dans les rues de Jérusalem, dans la vieille ville qui parlait cette vieille langue des anciens prophètes. Il a travaillé sur plusieurs plans. Un travail était enseigner l'hébreu par l'école. Par exemple, à l'école à l'école enfantine, on a parlé avec les enfants, l'hébreu, et les enfants sont retournés à la maison, ils ont appris à leurs parents comment on parle l'hébreu. Et aujourd'hui, c'est la première langue de l'État, l'État hébreu, l'État d'Israël. N'est-ce pas? Vous pouvez vous imaginer, les enfants sont retournés, ils ont dit « Shalom Abba, Shalom Ima, Zekach Yafé, Letzachek » Im yeladim acherim began hayeladim le lashir shirim yafim lishmoa sipurim yafim. Et voilà, ainsi les parents ont appris l'hébreu. Troisième argument. Achat de terrain, 1882 à 1940. L'histoire du retour des Juifs dans les premières décennies était caractérisée par l'achat de grands terrains en Palestine, comme on appelait à l'époque le pays d'Israël. Eh bien, des Juifs ont acheté des terrains, surtout des Arabes, des grands propriétaires à Damas et à Beyrouth, et aussi au Caire, d'ailleurs sur des prix absolument surélevés, c'était plus cher que le terrain aux États-Unis à l'époque, et c'était du désert. Ils ont acheté cela pour y habiter. Et exactement cela a été annoncé dans le prophète Jérémie, en rapport avec les derniers jours. Jérémie 32, 44. « On achètera des champs à prix d'argent. Et on écrira les lettres et on les scellera et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin et aux eaux environs de Jérusalem. » Et dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne, dans les villes de la Chephéla et dans les villes du Negev, car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. Quatrième point, parce que nous avons ici dans le texte vraiment les détails. Il n'est pas simplement dit on achètera des champs à prix d'argent, mais il est dit où? Dans le pays de Benjamin. Eh bien, le territoire de la tribu israélienne de Benjamin était placé, à l'époque de l'Ancien Testament, au nord de Jérusalem jusqu'à Ramallah. Eh bien, nous savons aujourd'hui exactement où les Juifs ont pu acheter. Et là, entre Jérusalem et Ramallah, ils ont acheté des grands terrains. Cinquième point, à Jérusalem. Le texte dit « dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem ». Eh bien, tout autour de la vieille ville de Jérusalem, on a acheté énormément de terrain. Sixième point, achat dans la montagne. N'est-ce pas, le texte dit « dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne ». Voyez, les montagnes de la Judée vont depuis le nord vers le sud, comme ça. Là, vous avez Jérusalem, Hébron, ici en bas, le Negev. Eh bien, dans le territoire de Juda, dans les montagnes, particulièrement là, entre Jérusalem et Hébron, on a acheté énormément de terrain. Point 7, achat dans la Chephéla. La Chephéla désigne la plaine à l'ouest des montagnes de la Judée, là vers la mer Méditerranée. Et là, en Judée, c'est dans la Chephéla où on a acheté le plus de terrain. Le point 8, achat dans le Negev. Le terme Negev désigne la région sud d'Israël, c'est-à-dire le désert au sud de Beersheba. Eh bien, ici au sud de Beersheba, dans le désert, on a acheté énormément de terrain. Donc, chaque point dans la prophétie s'est accompli à la lettre. 9. Ville vétérotestamentaire rebâtie. Les derniers versets du prophète Amos, 9, 14 à 15, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, longtemps avant le commencement de la dispersion des Juifs, la dispersion mondiale des Juifs, le texte parle déjà du retour des Juifs dans les derniers temps. Vous voyez, c'est ça la prophétie biblique. Et là, Dieu dit, et je rétablirai le sort de mon peuple Israël. Et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront. Et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui des témoins oculaires. Comme des villes de l'Ancien Testament, des villes vétérotestamentaires, sont aujourd'hui des villes modernes avec de la vie moderne. Point 10, vignes et vin. N'est-ce pas, dans le même texte, nous avons pas seulement lu, ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront, mais également, et ils planteront des vignes et en boiront le vin. N'est-ce pas, un lecteur superficiel se dirait, oui, ils vont planter quelques vignes, mais ce n'est pas très important ici dans le texte. Il faut savoir, lorsqu'on lit la Bible, chaque mot a toujours une signification profonde. Et nous allons le découvrir. Vous voyez, à l'époque de l'Ancien Testament, l'agriculture, en rapport avec les vignes et le vin, jouait toujours un grand rôle. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, c'est tout plein de témoignages. Mais, au 7e siècle après Jésus-Christ, quelques années après la mort de Mahomet, les Arabes qui étaient juste devenus, il y a quelques années, des musulmans, venaient de la péninsule arabe pour faire la conquête du pays du pays d'Israël. Et ensuite, ils ont détruit tout ce côté de l'agriculture. Parce que on n'a pas le droit de boire du vin dans l'islam. Eh bien, c'était détruit. Et lorsque les premiers juifs de la Russie, qui sont arrivés à partir de 1882, ils ont eu un grand problème pour faire revivre le désert. Et à l'époque, un grand spécialiste de vin, le baron de Rothschild, de Bordeaux, il a dit, mais il faut apporter des vignes depuis la France. Avec ce sol-là, ça vaut la peine. Et ils ont apporté des vignes depuis Bordeaux pour commencer de nouveau ce travail de planter de vignes pour produire du vin. Et je dois un peu raccourcir l'histoire, mais aujourd'hui, c'est ainsi. Israël est devenu un des pays qui a gagné le plus de médailles d'or pour les vins de haute qualité à l'échelle mondiale. Et donc, ce côté de l'agriculture joue aujourd'hui un très grand rôle en Israël. Point 11. Cep de l'étranger. Je reviens à Amos 9, mais juste entre deux, je lis d'Ésaïe 17, verset 10, qui parle aussi des derniers jours, où Dieu parle à son peuple, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cèpes étrangers. Il faut que j'explique. Les premiers juifs en masse qui sont retournés n'étaient pas pour la plus grande partie des juifs religieux. Mais venant de la Russie, c'était beaucoup de socialistes, des athées, des sionistes qui voulaient simplement trouver une solution humaine aux problèmes juifs. Voyez ? Donc, ils sont revenus pas pour accomplir la prophétie biblique, parce que pour une grande quantité, la Bible ne valait rien. Car tu as oublié le Dieu de ton salut et tu ne t'es pas souvenu du rocher, etc. Mais ils ont reçu des vignes de la France. Et ça s'est accompli comme il est dit ici. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de ceps étrangers. 12. Des plantations de fruits. Je reviens à Amos 9, 14. Nous avons aussi lu, et ils feront des plantations et en mangeront le fruit. N'est-ce pas? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut planter sur une telle terre, à côté des vignes? Eh bien, des fruits d'agrumes ou des autres fruits exotiques. Et c'est pour ça qu'Israël est devenu maintenant un pays où on produit aujourd'hui par an jusqu'à 900 000 tonnes de fruits d'agrumes, en plus d'autres fruits exotiques, et un tiers est même exporté au monde. Ils feront des plantations et en mangeront le fruit. Si vous avez déjà goûté des oranges Jaffa, alors vous avez eu l'accomplissement de la prophétie sur la langue. 13. Le pays transformé. Je lis en Ézéchiel 36, 34. Au début, j'avais lu un verset de ce chapitre qui parlait du retour des Juifs de toutes les nations. Et quelques versets plus tard, il est dit, « Et le pays désert sera labouré, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et ils diront, « Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden, et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. » Vous voyez, en Israël, depuis 1882, on a planté 230 millions d'arbres. Ce qui a changé aussi le climat, c'est normal. Et Israël est devenu aujourd'hui un pays qui fait l'exportation de fleurs. Car on produit par an 1,3 milliard de fleurs coupées. Et une bonne partie est exportée. Une fois, j'ai parlé sur ce texte en Hollande, sur une conférence. Alors, j'ai expliqué, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est exactement ce qu'on vit lorsqu'on amène, comme moi, souvent, des groupes de l'Europe en Israël pour leur montrer le pays en printemps et aussi en automne. Alors, c'est exactement cette impression qu'ils ont. Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Un pays de fleurs. 14. La fondation de l'État d'Israël, 14 mai 1948. N'est-ce pas? Vous avez vu? Il y a eu une colonisation du pays des ancêtres pendant quelques décennies. Mais les Juifs qui habitaient là en Palestine, comme on appelait le pays à l'époque, ne connaissaient pas un État hébreu. Mais en Ésaïe 66, verset 8, nous lisons, « Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Eh bien, un jour est venu où la nation a été enfantée. La fondation de l'État moderne, 14 mai 1948. Un jour difficilement à décrire, parce que sans la destruction de plus de 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, cela aurait été humainement parlé impossible. Parce que le choc de la destruction des 6 millions a renforcé la décision de la plus grande partie des nations de l'ONU pour dire « Maintenant, il faut un État juif. » Et voilà, en un seul jour. 15. La fondation de l'État d'Israël pendant une période de guerre. Vous voyez, pas seulement fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour, mais le texte dit « une nation naîtra-t-elle en une fois ? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Et je peux vous dire, j'ai fait six fois l'expérience. Être en travail, ça fait vraiment mal. C'est douloureux. Eh bien, juste après la décision de l'ONU en novembre 1947, donc les Juifs, à l'époque en Palestine, étaient attaqués par une immersion de terrorisme. Mais ils ont quand même fondé l'État le 14 mai et juste vers le 15 mai, les nations, les armées de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, du Yémen et de l'Arabie Saoudite attendaient que les Anglais partent définitivement de la Palestine pour détruire immédiatement, complètement, l'État juif. Et ils ont fait, le 15 mai, l'invasion, et la suite était une guerre totale, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le monde arabe, une guerre totale pour détruire les Juifs, car aussitôt que Sion a été en travail, il a enfanté ses fils. 16. La conquête du mont de Sion, le 7 juin 1967. Eh bien, le mont Sion, dans la Bible, est toujours le mont du Temple. Aujourd'hui, on appelle une colline juste à côté aussi Sion. Mais dans la Bible, c'est toujours le mont du Temple. Eh bien, l'ONU avait prévu, en 1947, lors de la fondation de l'État juif, le mont du Temple à Jérusalem de l'Est ne fera pas partie du territoire d'Israël, mais sera donc un lieu international. Mais dans cette guerre totale, 48-49, la Jordanie, à l'aide avec les autres, des autres armées, a pu conquérir le mont du Temple et ils ont coupé Jérusalem par un mur. Et voilà, les Juifs ont plus pu aller prier vers le mur de lamentation, vers le mont Sion. Mais lorsque le monde musulman, pour une deuxième fois, voulait détruire les Juifs en 1967, alors là, l'armée israélienne s'est dit, ça nous donne la justification pour faire la conquête du mont du Temple. Et pendant la guerre des six jours, l'armée israélienne a conquis le mont du Temple. Après presque 2000 ans, le peuple juif est retourné pour posséder le mont du Temple. Et voilà le psaume prophétique, 126, verset 1er. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Vous voyez les vainqueurs sur le mont du Temple. Et c'était exactement l'accomplissement de ce texte biblique. 17. Le but des ennemis, exterminer Israël. Dans le psaume prophétique, psaume 83, nous lisons une prière des derniers jours, une prière juive. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Eh bien, cela s'est accompli trois fois. 1948-49, la guerre d'indépendance, avec comme but l'extermination des Juifs en Israël. Ensuite, 1967, la guerre des six jours, et une troisième fois la guerre du Yom Kippour 1973. Et trois fois, ils ont parlé de cette façon-là. 18. Une alliance des ennemis, la Ligue arabe. Je continue à lire dans ce psaume, parce que nous avons seulement lu des ennemis d'Israël, mais il n'était pas clarifié de qui le texte parle. Eh bien, je continue. Verset 5. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, ils ont fait une alliance contre toi. Eh bien, il faut que j'explique. Le terme « ligue », c'est un terme latin pour dire « alliance », n'est-ce pas? Et on a fondé la Ligue arabe à la fin du Deuxième Guerre mondiale pour éviter qu'on puisse établir un État juif en Palestine. Et lorsque quand même l'État juif a été fondé en mai 1948, le but de la Ligue arabe était de détruire cet État. 19. La Jordanie. Je vous montre maintenant que le texte parle de tous les 6 États fondateurs de la Ligue arabe, qui maintenant a plus de 20 membres. Mais ici sont mentionnés les 6 États fondateurs. Verset 6. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr, Assur aussi s'est joint à eux, ils servent de bras au fils de Lot. Bien sûr, ce sont les termes d'autrefois. Et nous savons exactement où était le territoire d'Édom, de Moab, d'Ammon, autrefois. Eh bien, les Édomites, c'était les habitants de la Jordanie actuelle au sud, et à l'autre côté de la mer Morte, c'était le territoire de Moab et Ammon. Encore la capitale, Amman, porte le nom de cette tribu. Amman était au nord. Donc ces trois expressions parlent du territoire, indiquent le territoire de la Jordanie actuelle. Et voilà, c'était un des membres fondateurs. L'Arabie Saoudite, notre point 20. Le texte parle des Ismaélites. Eh bien, les Ismaélites étaient des tribus arabes. Pas tous les Arabes sont des Ismaélites, mais les Ismaélites sont des tribus arabes qui habitaient aussi le territoire de l'Arabie Saoudite actuelle. C'est pour ça que Mahomet, il s'est considéré lui-même, dans le Coran, vous pouvez le lire, comme un descendant d'Ismaël. Eh bien, l'Arabie Saoudite était un membre fondateur de l'Alliance. 21. La Syrie. Vous lisez dans le texte « Les Agaréniens ». Eh bien, nous savons exactement, c'était une tribu qui a vécu tout au nord de la Jordanie actuelle et au sud de la Syrie. Donc, cette expression indique le territoire qui est aujourd'hui la Syrie actuelle. La Syrie était aussi un fondateur. Ensuite, 22, le Liban. Car au verset 7, nous lisons de Gébal et de Tyr. Voilà deux villes au Liban actuel. Tyr au sud, Gébal, en arabe, on prononce G, on prononce Jibail, au nord du Liban. Voilà, le Liban était aussi un membre fondateur. 23. L'Égypte. On a trouvé le terme Amalek. Eh bien, Amalek, déjà en Exode 17, était un peuple qui habitait la péninsule du Sinaï, qui fait partie de l'Égypte actuelle, qui était aussi un fondateur. 24. Les Palestiniens. Eh bien, le texte parle de la Philistie. Ce terme, la Philistie, désigne dans l'Ancien Testament la bande du Gaza, où était le territoire des Philistins bibliques. Eh bien, à cause des habitants là-bas, des Palestiniens, on avait fondé l'alliance arabe. 25, l'Irak. Le texte parle d'Assur, ou Assur, au verset 8. Assur était est donc une puissance dans l'Antiquité qui se trouvait au nord de l'Irak actuel. Il y avait les villes anciennes d'Assur, Ninive, etc. Eh bien, l'Irak était aussi le sixième, d'ailleurs, des fondateurs. 26, 27, je mets ensemble. Fuite et sortie des Juifs hors de l'Irak. En Jérémie 50 et 51, vous avez des chapitres qui parlent de la Babylonie dans les derniers jours. Je dois vous expliquer, la Babylonie était un empire dans l'Antiquité qui avait son territoire central au sud de l'Irak actuel. Eh bien, il faut que je vous explique qu'il y avait encore une communauté juive en Irak de 150 000 personnes au XXe siècle, qui était qui remonte encore aux Juifs qui étaient amenés en Babylonie par Nebuchadnezzar il y a 2600 ans et qui ne sont jamais retournés. Eh bien, le texte en Jérémie 58 parle aux Juifs et dit « Fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. » Eh bien, en 1941, l'Irak était lié avec l'Allemagne des nazis. C'est pour ça, en cette année, il y avait un terrible massacre parmi les Juifs à Bagdad. Et depuis, les Juifs ont commencé à essayer de fuir de l'Irak. C'était difficile. L'Irak a fermé les frontières. Mais des milliers de Juifs ont quand même pu franchir les frontières pour aller en Israël. Et tout d'un coup, 1950, le chef d'État de l'Irak s'est dit « Alors, je veux faire arrêter ce problème juif, de la fuite juive. Je permets aux Juifs de sortir de l'Irak. » Et alors, quand c'est permis, 7 000 à 10 000 vont partir et c'est réglé. Et ils vont renoncer à la citoyenneté irakienne, bien sûr. Et ils peuvent seulement vendre les maisons pour le dixième du vrai prix. Eh bien, 104 000 Juifs se sont annoncés. Nous partons. Et dans les 2 ans qui suivaient, ils sont tous partis. Ils sont sortis, pas fuis de l'Irak. Et après, il y avait encore des Juifs, mais ils étaient de nouveau persécutés dans la suite. Et voilà, la fuite a recommencé à la veille de la guerre du Golfe, en 1991, il y avait encore à peu près 150 Juifs en Irak. Et aujourd'hui, un peu plus qu'une vingtaine. Et ce sont tous des vieilles personnes. Donc, le judaïsme en Irak, c'est fini. Ça s'est accompli à la lettre. 28. Fuite et exode avant la catastrophe en Irak. Vous voyez, en Jérémie 51, verset 6, le texte dit aux Juifs, « Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » Donc les Juifs doivent fuir et sortir de la Babylonie, de l'Irak, avant qu'une catastrophe tombe sur ce pays. Eh bien, avant la guerre du Golfe, la communauté était sortie. 29, une armée du bout de la terre contre l'Irak, 1991. En Ésaïe 13 et 14, vous avez aussi 2 chapitres qui parlent de la Babylonie, mais dans les derniers jours. Et là, au chapitre 13, verset 4 à la fin, vous lisez, l'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Si vous voyez là, Israël et le Proche-Orient au centre du monde, comme sur toutes les cartes mondiales, eh bien, vous comprenez ce que c'est d'un pays lointain, du bout des cieux, par exemple, de l'Amérique du Nord, ou de l'Amérique du Sud, ou de l'Australie, etc. Eh bien, là, pour la guerre du Golfe, des pays, plus de 30 pays de tous les 5 continents du monde sont venus contre l'Irak. 30. Destruction de l'Irak. Le texte dit que ces pays vont venir pour détruire tout le pays. N'est-ce pas? Cette guerre était voulue et guidée par l'ONU. Et ils ont fait à peu près 100 000 attaques aériennes. C'était tout censé, n'est-ce pas? Fermer au public les vrais détails. C'était une catastrophe. Comme l'ONU, à travers ces nations, a détruit l'Irak. 31. Le bruit de guerre sur les collines. Vous savez, comme cette alliance de l'ONU était rassemblée en Arabie Saoudite pour finalement délivrer le Koweït, et la plus grande partie de l'armée est entrée dans le sud de l'Irak, donc, sur les collines de la Babylonie, vous pouvez dire, pour après tourner et tomber dans le dos de l'armée irakienne qui était en Koweït à l'époque. Et voilà, vous lisez en Ésaïe 13, 4 au début, « Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. » Vous comprenez, des centaines de milliers de soldats avec leurs chars, etc., sont entrés et sont passés par les collines de l'Irak. Le bruit d'une multitude sur les collines. 32. Rassemblement de beaucoup de nations. Nous avons vu la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. Eh bien, à l'époque, c'était 600 000 soldats de 34 nations différentes des 5 continents qui sont venus contre l'Irak. Lorsque la guerre était finie, j'ai regardé ma Bible et j'ai vu, ah, c'est pas encore fini. Car seulement une partie a été accomplie en cette année. Eh bien, je savais que ça va continuer. Et voilà, 12 ans plus tard, une deuxième alliance, plus sous la direction de l'ONU, mais de l'Amérique, a conquis l'Irak et a produit 30 000 attaques aériennes. 33, conquête de Babylone, un choc pour le monde, 2003. N'est-ce pas? Dans la première guerre du Golfe, on n'avait pas conquis l'Irak. Mais en 2003, oui, et dans le texte biblique, il est clairement dit que le pays sera conquis. Jérémie 50, 22, fracas de bataille dans le pays, désastre immense. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Eh bien, à cette époque-là, c'était différent. Des millions sont allés dans les rues, dans le monde entier, pour protester contre l'Amérique et ses alliés. Eh bien, c'était exactement comme le texte le dit. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? 34. La prise de Bagdad. Il faut que je vous explique. Saddam Hussein s'est considéré comme le deuxième roi de Babylone. Le premier, c'était le grand roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone il y a 2600 ans. Et le deuxième des temps modernes, c'était Saddam Hussein. Et il s'est laissé présenter dans tout le pays, ensemble avec Nebuchadnezzar et derrière la vieille ville de Babylone qu'il a commencé à reconstruire. Et voilà, Jérémie 51, 31. Le coureur court à la rencontre du coureur. et le messager à la rencontre du messager pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout et que les passages sont saisis. Après quelques jours seulement, les alliés ont pu conquérir la ville de Saddam Hussein de tous les côtés. Et 35, les passages sont saisis et que les passages sont saisis. Ils ont saisi tous les passages du Tigre à Bagdad. 36, les palais sont brûlés. Le texte continue. Les passages sont saisis et que les palais sont brûlés par le feu. Eh bien, si dans votre Bible, il est dit les étangs sont brûlés, une petite explication. Le terme hébreu agamim peut dire palais, forteresse ou aussi étang. Mais en 2003, le monde entier a vu les palais brûlés de Saddam Hussein. 37, fin subite de la guerre. Donc fin subite de la première phase de guerre après 25 jours seulement. Je lis Jérémie 51, verset 30. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. D'abord, ils ont fait la guerre comme des lions. Et tout d'un coup, c'était fini. Et un officier irakien a raconté au Spiegel de l'Allemagne, après, comme les soldats, tout d'un coup, ils ne sont plus venus pour faire la guerre avec lui. Ils sont tous partis, ou pratiquement tous partis, il a raconté. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. Voilà. 38. Bombardement des abris. On a mis le feu à leur demeure. C'est-à-dire les demeures des hommes forts. C'est les abris des soldats. Leurs barres sont brisées. 39. Je finis à 40. N'est-ce pas, il faut encore une partie pour demain, jusqu'à 60. 39, les richesses de Babylone dans les mains des ennemis. Vous disiez, je savais toujours que les Américains veulent le pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire depuis toujours? On pouvait lire ça il y a 2600 ans dans la Bible. Jérémie 50, verset 10, et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et maintenant, nous avons l'époque où, pas l'État d'Amérique, mais des entreprises privées sont en train de s'enrichir de l'Irak. Je parle seulement de la prophétie accomplie, mais juste pour être un peu plus complète, le texte n'est toujours pas encore complètement accompli. En Ésaïe et en Jérémie. Il y a encore une phase finale à venir, la destruction totale de l'Irak du Sud, de la Babylonie, de sorte que la région ne soit plus jamais habitée, dit le texte biblique. Alors, c'est toujours pas fini. Je finis par le point 40. L'Empire romain revient. En Daniel 7, vous trouvez le rêve de Daniel au 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où la Babylonie était l'empire mondial. Eh bien, dans ce rêve, il a vu quatre bêtes terribles sortir de la mer, une après l'autre. Et dans le texte, vous pouvez le lire dans votre Bible, il est expliqué que ces animaux représente des empires. D'abord, il a vu un lion majestueux avec des ailes d'aigle. C'était l'empire majestueux de la Babylonie à l'époque. Après, il a vu un ours. C'était le prochain empire dans l'histoire, la Perse, qui devait conquérir le monde antique. Ensuite, le plus vite, un léopard qui arrive. Cela représente la Grèce sous Alexandre le Grand qui, en 13 ans, a conquis le monde venant depuis l'Europe sur le territoire de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Et ensuite, une bête terrible avec 10 cornes, qui était le prochain empire, c'était l'Empire romain. N'est-ce pas? Comme ça, on a, je l'espère au moins, appris à l'école, il y avait ces 4 empires mondiaux, un après l'autre. Babylonie, Médo-Perse, Grèce, Rome. Et maintenant, nous faisons le lien avec le Nouveau Testament. Le dernier livre, l'Apocalypse, a été écrit par Jean à Patmos, sur l'île de Patmos, à l'an 95 après Jésus-Christ, à l'époque de l'Empire romain. Et là, il a encore une fois vu la quatrième bête avec les 10 cornes de Daniel. Apocalypse 13 et 17 en parle. Et là, on lui a expliqué dans la vision, Apocalypse 17, 8, la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Voilà, 3 phases de l'Empire romain sont distinguées. À l'époque où l'Empire existait toujours. Mais selon, l'Empire est divisé selon les temps absolus de la grammaire. Passé, présent, futur, n'est-ce pas? Et cela a un sens particulier parce que dans la Bible, Dieu est appelé celui qui est et qui était et qui viendra. Et ce dernier empire est représenté comme un empire qui se fait Dieu lui-même. Alors, vous voyez, c'est comme pour ridiculiser. La bête était, n'est pas. Et va monter, mais le texte continue, de l'abîme et aller à la perdition. Alors, 3 phases. Et nous avons appris à l'école, il était une fois un empire romain. D'ailleurs, à cette époque-là, Jésus-Christ est venu sous l'empereur Auguste. Mais nous avons appris, 476 après Jésus-Christ, les barbares du nord et de l'est ont détruit l'empire romain de l'ouest. Mais l'empire romain de l'est a continué jusqu'à 1453, sous l'attaque des Turcs, il est tombé. Mais longtemps avant, vers 400, l'empereur Charles, le moine, il a rétabli à l'ouest l'empire romain et il a appelé l'empire romain, le Saint-Empire romain. Plus tard, l'histoire est allée à travers les autos. Les automnes, on l'a appelé le Saint-Empire romain de nation allemande ou germanique. Oui. Eh bien, ça allait jusqu'à 1806. L'empereur Joseph a mis de côté la couronne. L'Empire romain était qui avait quand même tenu ensemble beaucoup de territoire de l'Europe pendant tous ces siècles. C'était à la fin. Mais 2 ans avant, Napoléon a mis soi-même la couronne sur sa tête car il voulait étendre l'Empire romain depuis la France jusqu'en Russie. Mais 1813, pendant la bataille des nations à Leipzig, c'était décidé. C'est fini. Et l'année d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Et voilà, il n'y avait plus du tout un empire romain. N'est pas. 19e siècle, l'époque du nationalisme. On est fiers d'être français. On est fiers d'être suisse, etc. Et voilà, un schisme intérieur de ce continent qui était longtemps uni. Et une première catastrophe, la première guerre mondiale sur ce continent, avec 20 millions de morts. Et quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, aussi sur ce terrain de l'Europe, avec 70 millions de morts, l'Europe était par terre. Et juste après, peut-être il y a des personnes qui se rappellent, 1946, eh bien Winston Churchill est venu à Zurich. Et à l'université, il a tenu un discours. « Let Europe rise !» Laissez revivre l'Europe. Il a expliqué comment. Il nous faut faire une unité des Nations Unies de l'Europe. Il a expliqué comment. Et vous savez, 1957, les contrats de Rome ont été faits. Et les années ont suivi jusqu'à ce qu'on a construit une nouvelle Europe, appelée aujourd'hui l'Europe, l'Union de l'Europe. Qu'est-ce que c'est cela? Avec 27 nations aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire, parce que les visionnaires de l'Europe ont donné la réponse depuis longtemps. Émile Loos, dans les années 50, il a dit, l'Europe, l'Union européenne, nous ne devons pas construire, mais seulement rétablir. Un des secrétaires d'État de la Suisse, le docteur Franz Blanca, il a dit, et il est pour la nouvelle Europe, ça existe aussi en Suisse, il a dit, en vue de l'Europe future, un empire, un saint empire romain des nations européennes, nous construisons. Tiens, va monter. De l'abîme. De l'abîme! Oui. Le terme abîme en grec, abyssos, est utilisé dans la Bible, en Romains 10, pour le royaume des morts, le séjour des morts. Eh bien, exactement, de la pire des guerres de l'histoire humaine est sortie la nouvelle Europe pour se reformer comme empire romain. Mais le texte dit « et aller à la perdition ». Car l'Apocalypse dit « dans l'époque où cet empire remonte, Jésus-Christ va venir pour apporter le grand bouleversement mondial ». Et puis vous voyez, toutes ces prophéties à la même époque, et vous êtes content que j'arrête maintenant. Mais trois conclusions. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible est la parole de Dieu. Nous pouvons le prouver par la prophétie accomplie. Cela, vous ne trouvez pas ni dans le Coran, ni dans les écrits des bouddhistes, ni dans les écrits des hindous, ni dans les écrits de Marx ou des autres athées, seulement dans la Bible. Il faut que quelqu'un derrière ce livre qui connaît vraiment l'avenir, quelqu'un qui n'est pas soumis au temps et à l'espace, l'Éternel et son nom. Eh bien, cette Bible nous dit, nous devons nous tourner vers Dieu. La Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. De nature, nous sommes des ennemis de Dieu parce que nous vivons sans lui. Mais Dieu nous appelle à être réconciliés. C'est pour ça que le Messie est venu pour la première fois, pour mourir pour nos péchés. Et si nous confessons sincèrement dans la prière personnelle, Nos péchés, nos injustices de notre vie à Dieu, ouvertement. Et nous remercions Dieu qu'il ne va plus nous juger, mais il a jugé Jésus-Christ à la croix. Dieu va nous pardonner complètement. Je finis par le verset de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Merci de votre attention.
Je suppose que l'intervention de Roger Guédy suscite en vous des questions, alors soyez bien libre de les noter sur les...
bonsoir à tous. Et merci d'être encore nombreux, autant qu'hier soir, pour cette soirée. Alors, de la part de l'association Point Bible, je souhaite la bienvenue, en particulier